Juste dans la question de la suggestion pratique qu'on pourrait lier à cette réflexion, je voudrais vous redire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu comme ça, la question des quatre sens de l'écriture. La question des quatre sens de l'écriture. Quand on lit un texte biblique, les quatre sens qui se superposent ou qu'on peut trouver en fouillant un peu plus. C'est peut-être Augustin de Dacy, un dominicain, au XIIIe siècle, qui avait composé cette phrase « La lettre enseigne les gestes passés, l'allégorie ce qu'il faut croire, la morale comment tu dois agir, et l'anagogie ce vers quoi tu tends. » Ce que tu espères. Et donc ces quatre sens, on pourrait les résumer ainsi. Premièrement, le sens littéral, quand on lit un texte biblique. Deuxièmement, le sens allégorique. Troisièmement, le sens tropologique. Et quatrièmement, le sens anagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens littéral, on comprend bien. C'est-à-dire, on regarde le texte et puis on regarde les faits historiques, les actes, les personnages, les paroles, l'histoire du peuple élu, celui qui comble ses attentes en donnant du même coup à ces faits anciens leur amplitude maximale. La lettre humaine de l'écriture reçoit de Dieu l'autorité, c'est-à-dire Dieu en est l'auteur, pour raconter le geste de Dieu en faveur des hommes. Mais ce sens littéral est d'ores et déjà théologique, c'est le récit proclamé par les croyants. Relecture des Écritures d'Israël montrant comment Jésus y met le point d'orgue. L'Écriture, lue ainsi, est reçue dans la foi des chrétiens qui la confessent, c'est-à-dire qui y lisent le dessein du Dieu unique sur l'humanité et le proclament comme tel. Si on prend un texte de l'Ancien Testament, par exemple, on va voir comment il annonce Jésus, au fond. Mais voilà, on s'en tient à une lecture relativement basique. Alors, il y a un deuxième, en creusant un peu, il y a un deuxième sens, ce qu'on appelle le sens allégorique, qui est proprement l'objet de la foi, qui s'enracine dans les faits et se décante pour devenir mystère. Ou la réalité intime de l'histoire vue dans le regard de Dieu que révèle Jésus. C'est l'ensemble des vérités concernant le Christ et son Église, déjà présentes en germe, préfigurées dans le Premier Testament et réalisées dans le Second, à charge d'être vécues dans l'existence chrétienne. L'Église assume l'histoire d'Israël, non de façon exclusive, mais à la lumière de l'Esprit de Jésus, qui nous dit son inaccomplissement de fait et nous annonce, à travers la tradition, son accomplissement définitif dans le Christ à la fin des temps. En creusant un peu plus, le sens tropologique ou moral, c'est-à-dire l'exercice de la charité qui découle de l'allégorie. Elle actualise le dogme en règle de vie de l'âme chrétienne, l'ajustant au comportement du Christ dans la force de son esprit. L'homme y apprend à connaître, à la lumière du pardon accordé, la malice de son péché. Et puis le quatrième sens, le sens anagogique, le chemin de l'espérance, sens mystique, elle annonce les fins dernières, c'est-à-dire l'accomplissement de nos vies dans l'intimité des trois personnes divines. Dans les phrases en italique qui sont tout en bas, l'auteur de cette petite note dit « On peut exprimer symboliquement cet itinéraire en prenant comme thème Jérusalem. » Premièrement, le sens littéral, Jérusalem, la réalité historique, la ville des Juifs. Bon, c'est simple. Deuxièmement, le sens allégorique, Jérusalem devient figure de l'Église, cité mystique. Troisièmement, le sens moral ou tropologique, Jérusalem devient figure de l'âme chrétienne. Et quatrièmement, le sens anagogique, Jérusalem céleste, L'église du ciel est le lieu intime du cœur. Ou bien si on prenait un autre exemple, si vous prenez le chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, par exemple, où Jésus parle du pain de vie, il fait une multiplication des pains, puis Jésus marche sur les eaux, puis il parle du pain de vie, sens littéral, on lit les paroles de Jésus sur le pain de vie, sur la multiplication des pains, voilà, bon, c'est simple à comprendre au niveau des faits. Ensuite, le sens allégorique, on comprend un peu plus ce que dit Jésus sur le pain de vie qui nous nourrit de vie éternelle. Voilà, puis après, il y aura le dogme de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà, sens théologique, sens allégorique. Troisièmement, le sens anthropologique. On peut comprendre que par l'Eucharistie, nous sommes nourris pour vivre d'amour, de charité. Nous sommes fortifiés pour vivre une vie chrétienne de témoignage. Et puis, quatrième sens, le sens anagogique ou mystique, l'Eucharistie, c'est la rencontre intime avec le Christ, maintenant et définitivement pour l'éternité. Bon, ça vous semble peut-être compliqué, hein, mais ça veut dire que on n'a jamais fini, au fond, de connaître l'Écriture, de lire l'Écriture, et qu'on peut revenir sans cesse sur un texte, on peut le lire et le relire, et quelquefois, crac, justement, on va retirer une perle qui va nous éclairer, nous illuminer, on sera allé plus loin, mais qu'on ne doit pas simplement rester au sens littéral, extérieur, mais qu'il faut aller plus en profondeur. Voilà. La connaissance de soi, la connaissance de l'Écriture, nécessité de la méditation de l'Écriture pour une vie spirituelle qui se développe. Quelqu'un qui ne lirait jamais sa Bible, évidemment, va forcément manquer de nourriture. Donc, être en état de famine spirituelle, on s'en aperçoit pas, mais en fait, voilà, il crie famine, il manque de nourriture. Et donc, il se trouve à court. Il se trouve à court. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas répondre aux grandes questions. Et voilà. Ou bien il se contente de clichés qu'il a déjà appris quand il était gamin, puis qu'il a entendu dire, mais il ne s'est pas fait par lui-même son propre miel à partir de l'Écriture. Donc on a certainement à approfondir cette méditation constante de la parole de Dieu.